Bonjour la Méditerranée, bienvenue comme chaque semaine dans Cantara, le magazine d'actualité des deux rives de notre Méditerranée. Au micro, Thomas Brunelli de France Bleu RCFM à Ajaccio et en direct de la capitale égyptienne, Dina Abdelmeguide de Radio Le Caire. Bonjour Dina.
Bonjour Thomas, bonjour tout le monde.
Alors Dina, tu nous présentes le sommaire de ce numéro de Cantara qui débute avec un nouveau drame.
L'explosion d'une bombe a eu lieu dimanche dernier pendant la messe dans l'église Saint-Pierre et Saint-Paul du Caire. Le bilan est lourd, 23 morts et 49 blessés. Cet attentat a été revendiqué par l'État islamique. L'Algérie est marquée par le décès de Mohamed Tamal. Ce journaliste est mort en prison à la suite à une grève de la faim. Il avait été condamné à 2 ans de prison ferme pour atteinte au symbole de l'État. Au Maroc, la deuxième vague de régularisation des réfugiés est lancée. Elle concerne 25 000 subsahariens vivant au Maroc.
Un scandale secoue l'Espagne. Un couple a fait de la maladie de sa fille son fonds de commerce. Les médias sont tombés dans le panneau. Le couple a raflé des centaines de milliers d'euros en abusant de la générosité et de la crédulité des téléspectateurs avant d'être démasqué. La Tunisie mise sur le dialogue interculturel entre les acteurs de la société civile. Rencontre avec le président de la Fondation Sud-Nord Méditerranée. Enfin, pour la Corse, il sera question des politiques en faveur des personnes âgées dépendantes.
Cantara est le fruit d'une large coopération avec Alger Chin 3, Linda Boadma, Radio Extérieure d'Espagne Emmanuel Nzar, France Bleu RCFM, Pierre-Marie, Thomas Brunelli et Pierre-Louis Alessandri, Chaîne Inter Rabat, Nadira Belkhoutout et Mohamed Choui, Radio Tunis, Chaîne Internationale, Maya Dassili et moi-même Dina Abdelmeguide à Radio Le Caire.
Et oui Dina, notre première chanson est espagnole, La Oreja de Van Gogh, ça veut dire l'oreille de Van Gogh, elle est chantée par Geografía.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino tuvieran algún sentido para mí. Y que limite al este con mil amigos, al sur con tus pasiones y al oeste con el mar. Secretos que nunca te digo, para gobernarlos de cerca si los quieres conquistar. Si tú también lo sientes, si a ti también te apetece, no lo pienses, vámonos, ya somos dos. ¿Por qué no me das la mano? Nos cogemos este barco, celebrando con un beso que hoy es hoy. Que nuestra patria existe. Los dos, que nuestra patria existe donde estemos tú y yo, que todo estará cerca, vámonos. Me encantaría que nuestro país tuviera un arsenal inmenso de caricias bajo el mar, para que al caer la noche yo encienda dos velas, para invadirte por sorpresa en la intimidad. Los habitantes será el más pequeño del mundo, y sin embargo el más grande de todos los que yo vi. De veras te digo que el himno que escribo es sincero.
Notre premier sujet concerne l'Égypte. L'explosion d'une bombe a eu lieu pendant la messe dimanche dernier vers 10h dans l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. 3 jours de deuil national ont été décrétés par le président El-Sissi. 23 personnes ont été tuées, 49 ont été blessées. Cette église jouxte la cathédrale Saint-Marc, principal lieu de culte des Coptes de la capitale égyptienne. Alors Dina, ce lâche attentat revendiqué par l'organisation État islamique a une fois de plus semé l'effroi dans le pays.
Bien sûr, colère et indignation règne en Égypte et les premières informations parlaient d'une bombe de 12 kilos de TNT qu'aurait laissé une femme à la salle de prière puisque la plupart des victimes étaient des femmes et des enfants. Et dans la salle de prière des femmes où s'est produite l'explosion, le désastre est partout. C'était vraiment pénible, c'était tout le monde était sous le choc. Et puis lundi dernier, le président El-Sissi a annoncé lors des funérailles nationales tribunal organisé pour les victimes que l'auteur de l'attentat est un jeune de 22 ans. Il s'est fait exploser à l'aide d'une ceinture explosive et la police a passé la nuit à rassembler les parties du corps du kamikaze et à l'identifier. Voilà, c'est encore une fois, c'est quelque chose, un coup dans le cœur de l'Égypte. Déjà 2 jours même avant l'attentat contre la cathédrale, le terrorisme a frappé dans la région d'El Haram. 6 policiers ont été tués au cours d'une attaque près du barrage de la police. Cet incident est passé inaperçu juste 2 jours après, on voit un coup qui frappe l'Égypte. Ce qui déstabilise le plus l'Égypte, c'est bien sûr attaquer les églises. C'est une carte gagnante, souvent employée pour fragiliser le pays.
La communauté catholique copte est importante au Caire ?
Oui, elle est très importante. Très importante. On a même des quartiers. On dit que ce sont des quartiers coptes, des quartiers chrétiens.
Donc la réaction a été importante de la part de l'Égypte tout entière et aussi du président qui a décrété un deuil national de 3 jours qui a été respecté cette semaine.
Oui, en fait il y a un sentiment d'indignation toujours parmi les musulmans et les chrétiens sont vraiment indignés. Les coptes sont en ébullition et ils ont raison. Et ils se demandent pourquoi les coptes sont toujours ciblés par ces actes terroristes et pourquoi les forces de sécurité présentes sont incapables de les protéger. Vraiment, on comprend très bien leurs sentiments puisque nous aussi nous le sentons et ce n'est pas seulement l'Église qui est visée par ces actes terroristes mais c'est l'ensemble du pays, c'est un attentat qui vise l'Égypte et les Égyptiens et nous savons très bien qu'à chaque fois il y a une vague d'attentats terroristes en Égypte, l'Église est toujours au cœur de ces menaces tout comme la police et l'armée.
Et puis bon, il faut rappeler que l'Égypte a du mal en tout cas le tourisme égyptien a du mal à redémarrer que ce soit dans la vallée du Nil ou au Caire. Et c'est vrai que cet attentat va encore mettre un frein à cette activité économique et va pénaliser encore le pays. Donc on peut dire que l'Égypte vit avec sa crise économique une très 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 mauvaise passe, Dina.
Mais c'est vrai puisque cette attaque qui sert, c'est la stratégie de ces groupes islamistes qui cherchent toujours à compromettre toute opportunité de redresser l'économie et le terrorisme toujours en Égypte en faisant croire que la situation en Égypte est hors contrôle et que l'État est incapable de lutter contre ce terrorisme-là. Dès qu'il y a une progression, une amélioration, on trouve toujours des bombardements ici-là.
C'est comme ça se passe aussi en Tunisie. Allez, on va commenter l'actualité. On était en Égypte avec cet attentat. Et puis on va passer en Algérie où le décès du journaliste Mohamed Tamalt en prison suite à une grève de la faim qu'il avait entamée au mois de juin. Donc Mohamed Tamalt est un journaliste qui est accusé d'atteinte au symbole de l'État dans des publications partagées sur les réseaux sociaux. Il avait été condamné à 2 ans de prison ferme. Alors, pour en parler et pour commenter cette actualité, nous rejoignons en direct d'Alger Linda Bouadma. Bonjour Linda.
Bonjour Thomas, bonjour Dina.
Bonjour Linda.
Alors Linda, l'actualité, elle est aussi dramatique en Algérie avec la mort de ce journaliste. Alors, dans quel contexte ? Parce que la presse internationale s'en est véritablement fait l'écho, dénonçant notamment cette mort qui aurait pu être évitée. Alors, qu'est-ce qu'on dit en Algérie aujourd'hui ?
Alors, je vais d'abord vous rappeler un petit peu le contexte dans lequel s'est passé ce drame. Alors, comme tu l'as dit, Thomas, ce journaliste, Mohamed Tamalt, est décédé dimanche dernier. C'était le 11 décembre, dans un hôpital à Alger, à Beb el-Oued. Et c'était, comme tu l'as expliqué aussi, suite à des complications causées par une longue grève de la faim, une grève qu'il avait entamée en juillet dernier. Et son état de santé était en dégradation continue. Il était diabétique et il a eu des complications et c'est une infection pulmonaire liée à un long coma dans lequel il était tombé qui lui a été fatale. Alors, il avait été arrêté le 27 juin à Alger après son retour de Londres. Il avait été condamné, comme tu l'as dit, à une peine de 2 ans de prison ferme et une amende de 200 000 dinars qui avait été prononcée d'abord en juillet par le tribunal de Sidi Mohamed et la peine avait été confirmée le 9 août par la chambre pénale de la cour d'Alger. Il avait été condamné pour outrage à corps constitué et atteinte à la personne du président. Maintenant, on va essayer de savoir qui est ce journaliste, Mohamed Tamalt, parce qu'il était vraiment peu connu avant cette affaire, avant son arrestation cet été. Alors, Mohamed Tamalt était établi à Londres. Il détenait la nationalité britannique depuis 2007. Il collaborait avec plusieurs journaux arabophones, dont le grand quotidien Al-Khabar. Il était connu pour sa grande fougue et sa manière rude d'interpeller les responsables algériens. Mais ce ne sont pas ses écrits dans la presse qui l'ont conduit en prison, mais ses publications sur sa page Facebook intitulée « Majellat Siyaq al-Arabi », revue du contexte arabe où il était très virulent et il lançait des accusations tous azimuts. Des écrits de la vie de beaucoup qui sont simplement impubliables dans n'importe quel journal, compte tenu évidemment des limites fixées par la loi, le code pénal et les chartes d'éthique et de déontologie. Et cela, Mohamed Tamalt ne l'ignorait pas en revenant en Algérie. Il savait qu'il risquait gros si la machine judiciaire se mettait en branle contre lui. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et malheureusement, tout cela a tourné à la tragédie. D'ailleurs, un juriste interrogé par la presse n'a pas caché son étonnement au sujet du retour de Mohamed Tamalt lorsqu'il a vu la page Facebook du journaliste. Il a commenté dans un journal en ligne « Il y a de quoi se servir pour n'importe quel juge d'instruction ». Alors, ceci étant, le texte relatif à l'outrage au président de la République qui relève du code pénal est très clair. Il ne prévoit qu'une peine d'amende et pas d'emprisonnement. D'ailleurs, le président de la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l'homme, Farouk Ksantani, trouve anormal qu'un journaliste soit encore condamné par la justice. Il dit « la prison n'est pas faite pour les journalistes et ces derniers ne sont pas faits pour aller en prison ».
Linda, d'autant que la constitution algérienne qui a été révisée élargit et renforce un peu plus la liberté des médias.
Ben justement, et dans la révision de la constitution, il n'est plus question d'emprisonner des journalistes. Journalistes pour délit d'opinion. Donc il est question justement d'amende quand il y a outrage, quand il y a insulte, quand il y a des problèmes d'atteinte à l'éthique ou à la déontologie. Amende, mais pas du tout d'emprisonnement. C'est ce que justement fait débat aujourd'hui ici. On ne comprend pas. Il y a trois grandes interrogations autour de la mort de Mohamed Tamalt. C'est d'abord, beaucoup se sont posé la question, pourquoi est-ce qu'il est revenu en Algérie cet été alors qu'il savait qu'il risquait gros avec la machine judiciaire? Pourquoi est-ce qu'il a aussi persisté dans sa grève de la faim? Et surtout, pourquoi est-ce qu'il y a eu cet excès dans l'application de la loi? La presse a réagi, il y a eu beaucoup d'écrits, on a essayé de relater un petit peu ce qui s'est passé. Et évidemment, tout le monde condamne qu'un journaliste aujourd'hui meure en prison. Personne ne comprend pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là.
Est-ce que ça peut déstabiliser le pouvoir?
Si ça peut déstabiliser le pouvoir, je sais pas, je ne pense pas. C'est un événement qui est tragique, c'est un événement qui ne fait plaisir à personne, mais ça ternit probablement l'image de l'Algérie, mais de là à déstabiliser le pouvoir, je crois que c'est un peu aller vite en besogne. Il y a eu le terrorisme et il n'a pas déstabilisé l'Algérie pour autant.
Très bien Linda pour toutes ces précisions. Avant de nous quitter, Linda, tu nous as choisi une chanson qui a, dont le chanteur a un nom un peu étonnant. Il s'appelle Kader Japonais.
Oui, alors ça, c'est un chanteur raï qui est sur la scène raï depuis quelques années. Il est très très connu, très apprécié. Et donc, bon, ben, alors je vous ai choisi ce raï New Look Algérie. Et la chanson s'intitule Mami Mami.
Très bien, merci Linda. À la semaine prochaine.
Merci Dina, merci Thomas. À la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir Linda.
Vous écoutez Kantara, votre magazine de la Méditerranée, et on poursuit le sommaire avec Dina Abdelmeguid qui nous parle du Maroc.
Au Maroc, une deuxième tranche de régularisation des réfugiés est lancée. Elle concerne 25 000 subsahariens vivant au Maroc. La décision a été prise par le roi Mohamed VI, qui a chargé la commission marocaine de procéder à la régularisation et l'intégration de ces réfugiés. La régularisation permet aux migrants irréguliers de bénéficier des droits fondamentaux, la santé, l'éducation et l'emploi, et surtout à une citoyenneté à part entière. Cette commission est composée des ministres de l'Intérieur, de la Santé, de l'Éducation, du Conseil national des droits de l'homme, des ONG en charge de la question de l'immigration, regroupées au sein de l'Organisation démocratique du travail, dont le secrétaire est le général Franck Iyomba. Nadira Belkhoutout l'a rencontré.
Franck Iyomba, vous êtes Congolais, vous êtes ici au Maroc depuis plusieurs années. Vous êtes secrétaire général de l'Organisation démocratique du travail au Maroc, une organisation qui se charge des droits des migrants au Maroc, membre et partenaire de la commission qui va se charger de la régularisation de quelque 25 000 migrants au Maroc. Tout d'abord, comment vous est venue l'idée de créer ce syndicat au Maroc?
Le syndicat, c'est le seul outil qui est habilité à pouvoir défendre les migrants en général et les travailleurs, les causes des migrants en général et des travailleurs migrants en particulier. Nous avons décidé de créer une structure qui serait en mesure de pouvoir défendre leurs droits et intérêts sociaux, économiques, professionnels et culturels, conformément à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et les membres de leurs familles. Raison pour laquelle nous avons eu l'idée de créer ce syndicat pour la défense de ces travailleurs migrants.
En quelle année vous avez créé votre syndicat ?
Le syndicat a été créé en 2012.
À combien estimez-vous le nombre des migrants, notamment les migrants subsahariens au Maroc ?
Lors de la dernière opération de régularisation, il y a eu au moins 27 130 migrants qui ont déposé leur dossier auprès des bureaux de régularisation dans tout le royaume. Donc ceux qui ont été régularisés, c'était à peu près 25 000. Au Maroc, il y a au moins 86 000 migrants en situation régulière. Ça, c'est le rapport du ministère de Plan de l'année dernière. Mais lors de l'opération, il y a eu 27 130 dossiers déposés et 25 000 régularisés.
Quelles sont les principales nationalités des migrants qui sont installés au Maroc et quelles sont les raisons pour lesquels ils sont venus au Maroc? Est-ce que ce sont des migrants politiques, des migrants économiques ou des migrants ayant fui les mauvaises conditions climatiques qui impactent négativement, bien sûr, les situations socio-économiques dans les pays d'exil?
La première nationalité, le Sénégal. Le deuxième pays, c'est le Congo RDC. Il y a aussi le Nigeria, il y a le Cameroun, il y a la Guinée. Et les autres pays aussi, y compris les Philippines, ainsi de suite. La majorité des migrants sont arrivés ici. Et avant, comme vous le savez, le Maroc était un pays de transit. Ils arrivaient ici pour passer de l'autre côté de la mer. Mais depuis l'instauration par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, qui est l'assiste de la nouvelle politique migratoire, et cela, ça fait aussi depuis plus de 10 ans, le Maroc n'est plus un pays de transit, mais il est devenu un pays d'accueil et d'installation. Alors ces migrants qui viennent de pays subsahariens et de l'Asie ont choisi le Maroc pour maintenant se reconstruire et chercher un mieux vivre dans la dignité. C'est pourquoi ils sont là pour travailler et chercher leur mieux vivre. Alors les raisons pour qui les poussent à sortir, pour la plupart, sont des raisons économiques.
Le Maroc, ce n'est pas la Suisse. D'après votre vécu ici au Maroc, vous êtes ici depuis combien de temps ici au Maroc ?
Depuis 2010.
Alors en général, comment sont les rapports entre les Marocains et les migrants?
Mais depuis l'instauration de la nouvelle politique migratoire par Sa Majesté le Roi, et la situation commence à s'améliorer. Donc il y a maintenant un mieux vivre ensemble de migrants au sein de la société marocaine, parce qu'il y a la cohabitation, il y a les migrants qui travaillent dans les bâtiments, dans divers tissus socio-économiques marocains, de marier leur culture sur tous les domaines et sur tous les plans. Donc la situation commence à s'améliorer par rapport aux années antérieures. Donc, cela prouve que non, le roi vraiment a ces soucis-là, que les migrants puissent s'installer librement dans la dignité au sein de la société marocaine. Donc, pour nous, en tant que migrants vivant au Maroc, donc c'est une opération à encourager. C'est pourquoi nous remercions vraiment sincèrement et avec nos profonds remerciements Sa Majesté le Roi pour ce dévouement humaniste qu'il a envers les migrants au Maroc.
Alors, dernière question, votre syndicat était partenaire lors de la première phase de régularisation. Vous serez partenaire également dans la deuxième phase. En quoi consiste votre tâche au sein de cette commission?
Nous ferons aussi partie de cette deuxième phase de l'opération. Et notre contribution, c'est toujours le même sens. Nous sommes là pour accompagner, assister et suivre les migrants, les aider à pouvoir se faire régulariser encore davantage, faire la sensibilisation, la mobilisation de tous ces migrants qui n'ont pas été régularisés, qui ont encore eu cette grâce royale cette année encore ici, de pouvoir se faire régulariser pour leur bien-être au sein de la société marocaine.
C'était le reportage de Nadira Belroutout avec le Maroc, Dina, qui était terre de transit pour tous ces réfugiés et qui est maintenant pays d'accueil. Donc ça s'est organisé avec des chiffres quand même assez importants, parce qu'on parle quand même de 25 000 réfugiés qui ont trouvé une place, un pays qui est le Maroc, avec cette politique mise en place par le roi. Je pense que c'est la bonne formule qui est appliquée par le Maroc et qui devrait être un peu mieux appliquée, en tout cas en Europe. Qu'en penses-tu?
Oui, bien sûr, parce qu'en fait, lorsqu'un pays reçoit des émigrés, ou bien en transit, ou bien le pays d'accueil, il doit être prêt. Parce que nous, par exemple, en Égypte, on a des réfugiés qui veulent aller au nord, et l'Égypte, c'est le transit pour les Soudanais, par exemple. Donc, ils viennent là, mais ils s'installent parce que en fait ils attendent qu'on leur permet de partir aux États-Unis, au Canada ou n'importe quel pays qu'ils ont choisi. Donc ils sont là. Alors le pays, il est obligé de regarder leur statut et de les intégrer quand même, ou de les recevoir comme pays d'accueil.
Ça demande une grosse organisation, une prise en charge. Donc le Maroc applique cette politique. Ben, peut-être que ça va servir d'exemple pour d'autres pays, que ce soit du pays d'Afrique ou bien d'Europe. Allez, on va passer en Espagne où un scandale secoue les médias les plus porteurs et les plus populaires. Pendant des années, ils ont participé, sans le savoir, à une opération d'escroquerie des plus pernicieuses et ouvert leurs colonnes, leurs studios, leurs plateaux à des parents qui ont fait de la maladie de leur fillette un moyen de faire recette. Usant et abusant de la crédulité du lecteur, du téléspectateur ou de l'auditeur, ce couple a fait pleurer dans les chaumières et raflé des centaines de milliers d'euros. Problème, les médias qui sont à la course à l'audience n'y ont vu qu'une histoire de plus pour capter le public et peaufiner leur image. À la fin du mois de novembre, le poteau rose est découvert. Face à des contradictions suspectes, quelqu'un a eu la curiosité de passer quelques coups de fil pour vérifier. Une histoire qui porte un coup dur aux initiatives solidaires réelles. Reportage d'Iman Wenzar.
Il y a quelques jours, la police régionale catalane, Los Mossos d'Esquadra, a arrêté Fernando Blanco pour escroquerie et abus de confiance. Son épouse est elle aussi interrogée, mais pour l'heure laissée en liberté. Nadia Nerea, fille de ce couple atteinte d'une maladie rare, la trichotiodystrophie, est au centre de l'affaire. Alors qu'elle n'avait que 7-8 ans et que sa famille vivait à Majorque, ses parents lançaient de vibrants appels à travers les médias pour demander une aide d'urgence pour la faire opérer à Houston, aux États-Unis. Ils créent une fondation, la fondation Nadia Nerea. La presse ouvre toute grande ses colonnes, ses espaces sociétés, ses espaces informatifs. Fernando Blanco est partout. En 2012, par exemple, le père annonce qu'il lui faut d'urgence 47 000 euros pour le voyage et pour couvrir les frais médicaux aux États-Unis. La demande est immédiatement relayée. La solidarité totale. Je vous propose cet extrait de El Periódico de Catalunya du 20 décembre 2012. Je cite, « La dernière initiative en date a reçu la contribution d'un groupe de musiciens qui ont enregistré une vidéo, All You Need Is Love, pour inviter tout le monde à aider. Parmi ces artistes, Rachen Red, De La Fée et Las Flores Azules, El Sueño de Morfeo, La Mala Rodriguez, ou encore Pau Donés, chanteur du groupe Jarabe de Palo, entre autres. » Fin de citation. La famille s'installe en Catalogne. Le loyer de la maison qu'elle occupe est payé par les fonds de la fondation. Des campagnes régulières sont autorisées. Fernando devient un habituel des plateaux de télévision. Dramatisation supplémentaire. Les parents assurent que Nadia n'a qu'une dizaine d'années d'espérance de vie.
Hola, me llamo Nadia y sufro una enfermedad muy rara. Los médicos tienen que operarme.
Fernando voyage avec Nadia Nerea à Houston, dit-il, à Toulouse, en Italie, à Cuba aussi pour le traitement. La mère n'est jamais du voyage. Ce mois de novembre dernier, Fernando Blanco reprend sa ronde des médias. Le 27 novembre, le quotidien El Mundo raconte le cas Nadia, ses traitements, ses visites médicales, y compris en Afghanistan, etc. Dimanche 28, un journaliste de la vieille école, Josu Mesu, dans son blog Mala Prensa, Mauvaise Presse, relève des inexactitudes, parle de déontologie, mais la campagne de collecte se poursuit. Dans les réseaux sociaux, des doutes fleurissent ici et là. Le journaliste d'El Mundo, auteur de l'article, s'insurge contre, je cite, les révisionnistes de Twitter. Mais bientôt, le mercredi 30, la journaliste Angela Bernardo, du site Hypertextuel, contacte les médecins et les experts que Fernando dit avoir consultés. Ce qui m'a le plus attiré l'attention, c'est l'anecdote du scientifique afghan qu'il était allé visiter dans une grotte. Mais je n'avais pas souvenir non plus d'un spécialiste meilleur généticien mondial, Edward Brown, qui allait réaliser cette thérapie.
Que era Edward Brown, que supuestamente iba a realizar esa terapia.
Le père soutenait que le travail de ce médecin, Edward Brown, et de son équipe avait été déterminant pour les scientifiques prix Nobel de physiologie et médecine de 2013. Je me suis mise en contact avec eux et ils ne connaissaient pas cet Edward Brown. Le 2 décembre, deux journalistes d'El País publient un article qui finit de démolir les allégations de Fernando Blanco. La tutelle de Nadia Nerea est confiée à son oncle. Fernando n'avait jamais voyagé hors de l'espace Schengen. Edward Brown ne semble pas avoir existé. Nadia Nerea n'était pas suivie par un médecin du service de santé catalan. Et les médias ont bien été obligés de manger leur chapeau.
C'était le reportage de Iman Ouenzar avec cette histoire assez originale et assez...
Assez drôle. Parce que, en fait, je ne sais pas, est-ce que c'est la première, c'est le premier cas ou quoi ?
C'est le premier cas que l'on découvre, hein, parce que quand même, pendant des mois, le père Fernando Blanco a su parler aux téléspectateurs, aux auditeurs, enfin au public en général espagnol. Il raflait beaucoup d'argent et c'est vrai, et c'est ce que souligne Iman dans son reportage, les télévisions, toujours à la recherche d'audience et de public, a fait les choux gras de cette affaire et finalement, c'était une grosse escroquerie, je crois que maintenant ils réfléchiront à deux fois.
Alors dorénavant, les médias ne vont plus penser juste à capter l'audience, mais à vérifier d'abord, parce que c'était ça le but des médias, c'est de vérifier d'abord l'information avant de l'annoncer.
Complètement, c'est le métier d'un journaliste, mais le métier de journaliste,
voilà.
Le métier de journaliste est en train de disparaître, parce que maintenant on passe n'importe quoi sans vérifier 3, 4, 5 fois, et voilà, on arrive à ce cas de figure. Bon, j'espère que, je ne sais pas s'ils vont être remboursés, tous les gens qui ont versé des sous, en tout cas, c'est une histoire qu'il faudra retenir à l'avenir. Voilà, après ce sujet qui a fait couler beaucoup d'encre en Espagne, on va écouter une chanson tunisienne. L'UNICEF a fêté le 11 décembre ses 70 ans. C'est en effet le 11 décembre 1946 que l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, a vu le jour. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'ONU souhaitait offrir aide et espoir aux enfants victimes de la guerre. Pour célébrer cet anniversaire, UNICEF Tunisie propose une chanson hymne à l'enfance, écrite et composée par Yasser Jradi, interprétée par Yasser Jradi et Najet Aounis. Cette chanson est dédiée aux enfants du monde entier. On l'écoute, son titre c'est « Ouvrez les portes, Elou El Biben ».
« Ouvrez les portes, وردة في جنينة عصافر وحمام هذه حكاياتهم هذه غناياتهم يغنوا ويطيروا بين يقظة والنام نسمع نصيحاتهم نفهمنا غزلاتهم لا حسينا سكاتهم لا مدينة يدين
Voilà, c'était la chanson tunisienne « Hello Beben » et on reste en Tunisie. Dans un climat de tension, attentats, guerre et violence et d'inquiétude, le dialogue interculturel est plus que jamais d'actualité. Une des organisations qui œuvre pour l'enrichissement du dialogue entre les acteurs de la société civile est la Fondation pour le dialogue Sud-Nord Méditerranée. Maya Dassili a rencontré à Tunis son président, Monsieur Charles Ferdinand Notombe, ministre d'État de Belgique et ancien ministre des Affaires étrangères. Où va le monde ? Vers plus d'ouverture ou vers plus de xénophobie est la première question qu'elle lui a posée.
C'est vrai ce que vous dites. On sent dans le monde une espèce de xénophobie ou de nationalisme ou de repli sur soi qui s'exprime pas à l'unanimité, mais enfin qui fait des majorités à un moment donné en Angleterre d'un ou deux pour cent ou aux États-Unis d'un ou deux pour cent, mais qui pousse, qui semble pousser vers repli sur soi.
Est-ce que c'est inquiétant?
Ça, c'est inquiétant. En Europe, ça existe aussi. Pas dans la majeure partie des grands États, mais dans un certain nombre d'États d'Europe qui veulent garder leur identité, mais leur autonomie. Quoi qu'ils ont réacquis il y a 20 ans, mais on peut dire que dans tous nos pays, il y a de l'inquiétude, mais encore largement une majorité qui dit « nous devons rester ouverts, voire ouverts entre nous, ouverts vers l'extérieur, et aussi ouverts aux gens qui fuient soit la guerre, soit la pauvreté, et il faut qu'on les accueille ». Donc ça reste la doctrine principale, mais faut-il le dire avec des exceptions désagréables, soit dans un ou l'autre pays, soit dans des expressions de mouvements politiques xénophobes, dont les États, les gouvernements doivent tenir compte.
Il y a certainement une autre coopération qui, elle aussi, permet le rapprochement des peuples, c'est la coopération culturelle.
Elle est évidemment fondamentale. Mais vous citerez des paroles d'un des directeurs de la fondation Annalind qui a été créée autour de la Méditerranée pour faire les échanges culturels. Monsieur Schostalès était un Allemand. Et comment voulez-vous que nous réussissions à promouvoir la coopération culturelle? Nous faisons des expositions, des concerts, des éditions, etc. Et puis, le soir à la télévision, il y a un attentat, une brutalité, une vengeance. Et donc, nos efforts culturels sont détruits par l'actualité violente. Donc, dans l'effort culturel, il faut mettre la culture de la paix et de la compréhension. Et peut-être, ça c'est une idée qui m'est personnelle, que dans les médias, notamment occidentaux, on donne moins d'écho à la violence ou aux violences qui sont très ponctuelles, mais qui remplissent nos journaux, qui impressionnent nos populations, sinon nous sommes menacés, parce qu'il y a eu un attentat ici ou un attentat là. C'est bien le but des auteurs d'attentats, c'est d'inquiéter
Absolument.
Tout le monde. Mais nos médias consacrent énormément de place à ça. C'est normal puisque le lecteur veut s'informer. Mais quant à transmettre des messages culturels plus fondamentaux, ou plus délicats, ou plus raffinés, c'est difficile parce que l'appétence n'est pas grande. Et donc ça, c'est dans l'effort de compréhension, on doit intégrer plus d'efforts d'échanges culturels au sens large. Mais pour ça, moi, je les appelle civilisationnels. On a tendance à penser culturel, c'est de la peinture, de la sculpture, de la musique et de la littérature. Non, c'est les attitudes
Absolument.
De civilisation qu'il y a dans
la religion, c'est aussi un élément essentiel de la culture.
La religion est un élément essentiel de nos cultures, tant au sud qu'au nord.
Est-ce qu'on n'a pas besoin aujourd'hui d'un vrai dialogue interreligieux?
Oui, mais paradoxalement, il existe. Les
Mais
les autorités religieuses se réunissent, parlent, proclament la paix, la collaboration.
Loin des grands médias et de l'opinion publique. Voilà.
Et d'autre part, ceux qui sont inquiets ou qui veulent s'opposer au courant dominant se réfugient dans des valeurs religieuses pour dire il y a incompatibilité, nous devons nous opposer au nom de ces valeurs-là. Ce qui est tout le contraire de ce que disent et les messages et de ce que disent les autorités. Néanmoins, des gens, je m'excuse, moins intelligents se laissent prendre par des slogans soi-disant d'inspiration religieuse ou exclusivement centrés sur la violence et sur l'opposition aux autres.
Donc il y a les efforts, mais il y a aussi, si j'ai bien compris, une volonté de compréhension mutuelle.
Je pense qu'il y a globalement une macro-volonté de compréhension. Aujourd'hui, par exemple, en Europe, il y a à la fois de l'inquiétude vis-à-vis de positions dites islamistes, mais aussi un grand intérêt pour l'islam. Il y a partout des cours de vulgarisation, d'explication, et beaucoup de gens les suivent, ils veulent comprendre. Un peu parce qu'ils sont inquiets, mais un peu parce qu'ils voient que c'est une grande civilisation qui n'est pas loin d'eux, et dont ils ne comprennent rien. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses positives, il faut les souligner.
C'était le reportage réalisé par Mayada Sili qui pose beaucoup de questions. Et c'est vrai que, comme dit le président de cette association, qui est un Belge, Charles Ferdinand, notons. Alors, est-ce qu'il faut donner moins d'écho à la violence, que les médias doivent lever un peu le pied? Je ne sais pas si c'est la solution, mais il faut quand même informer. Alors, est-ce qu'il faut aussi que les dialogues interreligieux se développent? Voilà toutes ces questions qui sont posées, mais pour l'instant, Dina, il n'y a pas de réponse.
Il n'y a pas de réponse, mais encore une fois, les médias sont accusés ici.
Mais est-ce que ce n'est pas notre travail aussi de dire ce qui se passe?
Dire ce qui se passe en tout. Hein. Ce n'est pas uniquement le mauvais ou ce qui choque. Parce que comme ça, nous aussi, nous allons chercher de l'audience.
C'est vrai, il faut parler un peu de tout, mais c'est vrai que pour l'instant, et malheureusement, c'est la violence, ce sont les attentats. Ce Kantara l'illustre, on ouvre avec quoi? On ouvre avec un attentat meurtrier au Caire, on ouvre avec un journaliste qui meurt en prison. Donc nous, on espérerait bien vous parler de fleurs, vous parler de musique, vous parler de choses agréables, mais pour l'instant, malheureusement, on n'en est pas encore là.
Malheureusement.
Vous écoutez Kantara, votre magazine d'actualité de la Méditerranée, et on continue, et on va parler des personnes âgées dépendantes, avec un reportage qu'a réalisé Pierre-Louis Alessandre, Idina.
Oui, en cette période de Noël, la famille est au centre de cette fête. Et au sein des familles, les personnes âgées, elles sont de plus en plus nombreuses avec l'allongement de la vie. L'augmentation du nombre de personnes âgées pose ainsi le problème de la dépendance. En France, on compte plus d'un million et demi de personnes âgées dépendantes. Et à l'horizon de 2060, les projections sont de plus de 2 millions. Les politiques en faveur de la dépendance coûte beaucoup d'argent au pouvoir public. Pierre-Louis Alessandri.
La dépendance d'une personne âgée est définie comme un état durable, entraînant des incapacités et requérant des aides pour réaliser des actes de la vie quotidienne. La frontière entre dépendance et problème de santé est poreuse. Au-delà de 75 ans, 9% des personnes vivent dans un établissement, mais le maintien à domicile est davantage privilégié par les pouvoirs publics et c'est ainsi qu'a été institué l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie gérée par les conseils départementaux. Avec cette allocation, les personnes âgées peuvent bénéficier d'une personne à domicile qui viendra pour l'aider et sera donc rémunérée. La Corse est un des départements français qui compte une part importante de personnes âgées, dont beaucoup vivent dans le rural, au sein de villages de montagne isolés. Pour mesurer la réalité de ce que peut être la gestion de la dépendance, un de nos reporters, Maxime Beckmer, a suivi un contrôleur du département de la Haute-Corse effectuant une visite au domicile d'une personne âgée vivant dans son village et qui désire bénéficier de l'APA.
C'est
cassé le col du fémur. Oui.
Donc ça a anéanti complètement tous les efforts de marche qu'elle avait fait. Donc là maintenant elle est dans le lit.
Alors, lors de la précédente visite, j'avais vu qu'elle était quand même qu'elle était toujours mobile, qu'on pouvait
complètement
se déplacer et tout. Donc là je vois que.
Mais qu'est-ce qu'on va me faire?
Ah, en fait, je vais évaluer votre perte d'autonomie pour essayer au mieux d'apporter une aide plus précise dans votre cas. Vous avez déjà une aide qui est en place, mais au vu de votre état qui s'est dégradé ces dernières semaines, on va essayer de réévaluer tout ça.
Ah,
ok,
ça va.
On va essayer. Et dites-moi, vous avez déjeuné ce matin?
Mais, calme.
Maintenant, alors qu'est-ce que vous avez pris de bon?
Café au lait, comment on dit?
Café au lait. Non, au niveau mémoire, elle a pas. Ça s'est pas trop dégénéré, pas trop quoi, dégénéré, je tiens. Hein. Mais bon, elle a de temps en temps des petits troubles. Quoi. Ah oui, elle est vive.
C'est au niveau moteur, en fait. Ouais, c'est
au niveau moteur, c'est une catastrophe.
C'est au niveau moteur.
Parce que cet été, avant qu'elle se casse le col du fémur, bon, le kiné avait dit non, mais elle va marcher normalement. Elle avait bien progressé, quoi. J'arrivais.
Voilà, il faut espérer que ça s'améliore avec la kiné et tout ça.
Peut-être.
Vous avez besoin d'avoir une présence aussi, c'est ça? Vous avez besoin d'avoir toujours quelqu'un.
Peut-être.
Et pas. D'accord. Bah, on va essayer de mettre en place aussi ça, parce que c'est la personne qui vient et avec les heures qu'on va vous donner en plus, c'est pas obligatoirement pour faire que du ménage, hein, repassage.
La France consacre 34 milliards d'euros chaque année pour la perte d'autonomie. Sur ces 34 milliards, 24 sont pris en charge par l'État, mais 10 milliards restent à la charge des particuliers, notamment pour l'hébergement en établissement qui est très onéreux. La solidarité familiale est parfois difficile à se concrétiser. Témoignage de la fille de la personne âgée.
Je suis tout le temps à la maison, sauf quand mes sœurs viennent me relayer, parce que j'ai la chance d'avoir deux sœurs, c'est quand même, ça permet de soulager un petit peu. Et surtout quand il y a l'aide ménagère qui arrive, parce que c'est la seule en qui j'ai confiance et à qui je laisse ma mère. Voilà, donc moi, ma vie, elle est réglée autour de ma mère. Pour nous, c'est quand même difficile. C'est très lourd, c'est contraignant. On a toujours peur qu'il leur arrive quelque chose. Je veux dire que, bon, c'est pas simple, quoi, psychologiquement, parce que... Et physiquement, parce que bon, moi je commence à être vieillissante aussi. Je ne peux pas la lever seule, j'ai trop mal au dos, je peux rien faire. Donc c'est difficile, quoi.
L'allocation personnalisée d'autonomie se concrétise par une prise en charge financière de l'aide qui va se rendre au domicile de la personne âgée. C'est en général une employée d'une association d'aide à domicile, structures qui sont de plus en plus nombreuses, compte tenu du besoin. Après le contrôleur, notre reporter a suivi une de ces aides qui intervient dans un village de montagne, chez une personne dépendante.
Adèle, coucou!
Bonjour!
C'est moi! Ça va?
Ça va, oui.
Voilà, je pose mes affaires. Alors, vous allez bien? Vous avez passé un bon week-end?
Oui. Et toi?
Ça va, oui, bien.
Voilà.
Et la semaine reprend, c'est reparti. Bon.
Voilà, tu sais ce qu'il y a à faire.
Oui, rien de particulier aujourd'hui.
Rien de particulier, non.
Je vais faire mon pointage. Vous avez bien mangé?
J'ai mangé, mais je n'ai pas encore pris mon café.
Ma principale intervention va être l'entretien de son logement, mais aussi de m'assurer que tout va bien, d'être là pour tous ses besoins, quels qu'ils soient. Les courses, le médecin, la pharmacie, la poste, et auxquels la famille ne peut pas toujours répondre.
La dépendance et donc la perte d'autonomie va progresser dans les années à venir et les pouvoirs publics vont devoir engager encore plus de politiques pour financer une solidarité. Mais la diminution des crédits publics et l'annonce de certains programmes laissent craindre une diminution des aides, ce qui serait une catastrophe pour les personnes les plus précaires socialement. Les dépenses pour la dépendance en 2040 pourraient augmenter de 10 milliards.
C'était un reportage signé Pierre-Louis Alessandri et Maxime Beckmer avec, bien entendu, cette problématique importante hein, des personnes âgées. On vit plus longtemps, donc les personnes âgées, eh bien, il y en a plus. La population est vieillissante, hein, notamment en Corse. Alors comment faire pour traiter ce problème de la dépendance? C'est un gros souci pour l'État, c'est un gros souci aussi pour les pouvoirs publics, mais c'est surtout, Dina, un gros souci pour les familles.
Et oui, parce que les familles, c'est d'abord, c'est eux qui sont concernés. C'est eux qui, c'est leur rôle au début. Et puis, quand il n'y a plus de famille ou les descendants ne sont plus là, sont en voyage, donc il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui prend soin de ces âgés.
Et puis, la solidarité familiale, c'est vrai qu'elle existe, mais comme les structures familiales maintenant ont éclaté, hein, c'est de plus en plus compliqué. Et pour vous donner un ordre d'idée, une personne âgée qui est placée dans un établissement spécialisé en France, ça coûte, écoutez, avec aide, hein, c'est-à-dire avec une aide de l'État, comme on en a parlé dans ce reportage qui s'appelle l'APA, ça coûte aux environs de 2500 euros par mois. Ça fait vraiment des grosses, grosses sommes. Allez, on va rester en Corse avec une très belle chanson que nous chante Jean-Paul Poletti. Elle s'intitule « Canzona vagabonda », ça veut dire « chanson vagabonde ».
Una fada peregrina se calada in un mio cuore e guida la mia strada con fortuna e con amore. la mia vita. Come pane d'ogni giorno ad una sporta di stelle, per la luna e per il sole scrivo le mie ritornelle. Core, core all'infinito, tu e la mia vita. Mi trovo a vessarte cime, cerco sempre qualche grotto per finiscere le mie rime. Core, core all'infinita, tu e la mia vita.
Très belle chanson corse de Jean-Paul Poletti. Et comme chaque semaine, notre agenda culturel, et on commence par la Tunisie, Dina.
La troisième édition de l'exposition internationale d'art plastique Jared Arts aura lieu du 28 au 31 décembre à Tozeur, dans le sud de la Tunisie. Appuyée et soutenue par le conseil régional du gouvernorat, le commissariat régional des affaires culturelles et le commissariat régional du tourisme de Tozeur, cet événement auquel prendront part des artistes plasticiens et des critiques aura lieu aux aires de l'avenue Habib Bourguiba.
L'Institut français du Maroc inaugure la première édition du festival de la bande dessinée dédiée à la jeunesse marocaine dans 8 villes du royaume. 13 artistes issus de la scène française, africaine et marocaine participent à ce concours. Dans les chapiteaux de cette première édition, une belle programmation est proposée et plusieurs thématiques sont déclinées. De l'histoire de la science-fiction en passant par l'aventure ou des récits intimistes, les scénaristes et les dessinateurs prendront leur quartier dans les instituts français pour des conférences, des ateliers, des signatures et des moments d'échange avec un public d'adolescents et tout simplement des passionnés de BD.
26 films seront en compétition pour l'Olivier d'Or au Festival culturel national annuel de films Amazigh, qui se tiendra du 17 au 22 décembre à Tizi Ouzou. Cette 15e édition, placée sous le thème Cinéma Amazigh, expression des valeurs mémorielles nationales, comporte 3 ateliers, dont un destiné enfants âgés entre 12 et 15 ans, pour les initier aux techniques cinématographiques.
Le cinéma Callao, situé sur la place madrilène du même nom, entre Piazza Puerta del Sol et Gran Via, fête en grande pompe son 90e anniversaire. La résistance au temps qui passe, aux modes et surtout dans cette zone de la ville à la spéculation immobilière rend cet anniversaire très important pour tous ceux qui n'ont pas renoncé au ciné, au vrai. Le cinéma Callao a été le premier de la capitale espagnole à projeter un film parlant en 1929, un film en couleur en 1935, et un film en 3D en 1953. Il est aussi le cinéma préféré pour les grands lancements de films avec Tapis Rouge, Vedette et Midinette.
L'Égypte a participé au Festival international de Dubaï avec 9 films, pour la plupart en compétition officielle, variant entre fiction et documentaire, long et court métrage. Il s'agit de La Jeune d'Arc égyptienne d'Iman Kamel, Nusur Sarira de Mohamed Rachad, Ahdar Yabes de Mohamed Hamad et bien d'autres. Les idées politiques traité s'avère d'une grande audace, de quoi avoir engagé un vrai débat au sein du festival, comme ce fut le cas avec le film d'Iman Kamel, La Jeune d'Arc égyptienne.
Les marchés de Noël rencontrent un vif succès en Corse. Les chalets installés notamment sur les places d'Ajaccio et de Bastia attirent beaucoup de monde. Ajaccio, comme l'année dernière, sur la façade de la cathédrale, un mapping, c'est-à-dire une projection d'images 3D, sera proposé dès cette semaine. Allez, avant de nous quitter, on va écouter une chanson, allez, on peut dire égyptienne, hein, avec Dalida, que tu aimes beaucoup,
oui,
hein, Dina.
Et bien sûr.
Voilà, on l'écoute.
Énorme des sables, des plaines sans arbres, s'en va de son pays. Au-delà des dunes, courir la fortune, car le
les douces terres n'étaient que du sable. Il reprend sa course vers une autre source. Il finira par trouver le puits de la liberté. Salva ya Salama, je te salue ya Salama. Salva ya Salama, je reviendrai de Salama. Un homme de sable, des plaines sans arbres, s'en va de son pays. Au-delà des dunes, courir la fortune, le seul
C'était l'immortelle Dalida, Lalida l'égyptienne. Et avant de nous quitter, il faut rappeler, Dina, que Cantara est une coproduction.
Eh oui, Radio Le Caire, Radio Extérieure d'Espagne, RCFM, chaîne Inter Rabat, AG-Chaîne 3 et Radio Tunis, chaîne internationale.
Alors n'hésitez pas à consulter la page Facebook de Cantara pour y retrouver tous nos reportages, écouter ou réécouter notre magazine. Voilà, ce numéro se termine. Il a été réalisé par Simon Guérini. Au revoir à tous. Et à la semaine prochaine. Au revoir, Dina.
Au revoir, Thomas. À la semaine prochaine.